les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle.
Comment les arts racontent-ils, imaginent-ils ou contestent-ils les relations entre liberté fondamentale et contrainte écologique ? C'est ce que nous tentons de dévoiler dans cette série de podcasts imaginés par Sabrina Robert, professeure de droit public à l'Université de Nantes, chercheuse au laboratoire Droit et changement social, et moi-même, Sophie Grosbon, professeure de droit public à l'Université Paris-Nanterre et chercheuse au CEDIN. Sabrina, c'est à toi.
Bonjour aux auditrices et aux auditeurs d'Amicus Radio. Avec Sophie Grosbon, qui co-dirige avec moi le groupe de recherche CRIT-ECODU pour Critique écosystémique des droits humains, je suis très heureuse de vous présenter cette première série d'épisodes. Elle propose une éco-critique de la manière dont les libertés sont représentées dans les arts. CRIT-ECODU, c'est un groupe d'une vingtaine de chercheurs et chercheuses en droit, en sciences politiques, en philosophie, en anthropologie et en sociologie. Ensemble, nous interrogeons les notions de droits humains et de liberté fondamentale à l'aune d'un enjeu devenu central, celui de maintenir l'humanité à l'intérieur des frontières planétaires. Ces frontières planétaires renvoient à plusieurs grands équilibres écologiques. Le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, l'amincissement de la couche d'ozone, les cycles de l'eau et de l'azote, ou encore la transformation des sols. Nos recherches nous conduisent ainsi à questionner les origines et les fondements d'une représentation parfois consumériste et hyper-productiviste des libertés. Une lecture qui nous amène, bien souvent, à confondre ce qui relève véritablement de nos droits fondamentaux avec ce qui n'est en réalité qu'une possibilité d'agir. Voyager toujours plus, consommer davantage, produire sans limite. Dans ce contexte, toute perspective de nouvelles réglementations environnementales, plus contraignantes, plus directives, moins permissives, peut être perçue sous le spectre de la dictature verte ou de ce que certains appellent l'écologie punitive.
Ce constat, nous le faisons d'abord à la lumière de la jurisprudence des tribunaux nationaux, européens et internationaux. Nous l'observons également à travers le décryptage des politiques publiques et des discours politiques. Mais il nous semble qu'il peut être aussi appréhendé autrement, en s'intéressant à la manière dont l'art représente l'articulation entre la protection de l'environnement et les libertés. Car les arts, qu'il s'agisse du cinéma, de la littérature, des séries ou encore des arts visuels, sont aussi des lieux où s'élaborent, se diffusent et parfois se transforment nos imaginaires politiques. Bien sûr, toutes les représentations artistiques ne véhiculent pas une seule vision des transformations sociales qu'implique l'urgence environnementale. Certaines mettent en scène des mondes apocalyptiques, des sociétés de consommation poussées à leur paroxysme, peuplées d'êtres humains profondément désocialisés, enfermés dans des logiques de survie ou d'hyper-individualisme. D'autres œuvres, au contraire, explorent des formes de réorganisation du monde social. Elles interrogent nos manières d'habiter la Terre, de partager les ressources, de redéfinir nos libertés dans un monde aux limites écologiques désormais visibles. En ce sens, les œuvres artistiques constituent un véritable terrain d'observation précieux. Elles donnent à voir les peurs, les résistances, mais aussi les possibles qui entourent les transformations écologiques de nos sociétés. Elles sont une source d'inspiration et de réflexion précieuse pour les chercheurs en SHS qui cherchent à composer un nouveau contrat social environnemental qui permette un futur désirable. C'est précisément ce que nous vous proposons d'explorer dans cette série. Comment les arts racontent-ils, imaginent-ils ou contestent-ils les relations entre liberté humaine et contrainte écologique ? Et c'est à travers une lecture critique d'Écotopia que Sabrina Robert, à qui je laisse la parole, ouvre cette série.
Écotopia a été écrit en 1975 par l'écrivain américain Ernest Kallenbach. C'est l'une des premières grandes utopies écologiques modernes qui a eu une influence importante dans l'écologie politique. Écotopia, c'est le nom d'un nouvel État, composé de 3 anciens États fédérés des États-Unis d'Amérique, la Californie du Nord, l'Oregon et l'État de Washington, trois États qui ont fait sécession. Depuis cette séparation, le pays a rompu toute relation diplomatique et commerciale avec les États-Unis. Mais 20 ans plus tard, des signes d'apaisement apparaissent. Un journaliste américain, William Weston, se rend alors en Écotopia pour réaliser un reportage sur le mode d'organisation politique du pays et le mode de vie des Écotopiens. Le récit suit son regard. Au fil de son séjour, son attitude évolue. D'abord méfiante, parfois arrogante, voire franchement hostile, elle laisse peu à peu place au doute, puis à la curiosité, à la fascination et finalement à l'adhésion. Kallenbach s'efforce de dessiner les contours d'une utopie écologique concrète qui bouscule profondément le mode de vie états-unien et plus largement le mode de vie occidental. Mais cette société n'est pas présentée comme un monde parfait. Elle reste traversée par ses propres tensions, ses contradictions et ses fragilités. Ici, c'est sur deux représentations spécifiques de ce que pourrait être une société écologique que je voudrais insister. D'abord, celle d'une société de la séparation. Ensuite, celle d'une société de la décroissance. La séparation, tout d'abord. Elle occupe une place importante dans l'œuvre de Kallenbach. Premièrement, parce qu'Écotopia a fait sécession des États-Unis. Cette sécession renvoie à plusieurs idées. D'abord, que la mise en place d'une société écologique, vivant en harmonie avec la nature, ne peut se faire que dans le cadre d'une rupture, de la survenance d'événements violents et du retour à l'isolationnisme. Ensuite, qu'une société écologique ne peut être un projet universel. Il ne pourrait s'accomplir qu'à une échelle territoriale limitée et à l'initiative d'une partie de la population, marginale, particulièrement sensible au péril environnemental, mais qui reste incomprise du reste du monde. C'est ainsi que dans Écotopia, tout au long du récit du narrateur, on perçoit l'ombre concurrente de l'autre société, celle de la consommation et de la production, qui, en dépit de l'évidence écologique, ne semble pas prête à renoncer à son confort matériel. En ce sens, dans l'un de ses derniers articles qu'il adresse au Time Post, Will Weston reconnaît les réussites du projet écotopien. La limpidité absolue de l'eau et de l'air, l'abondance et le caractère sain de la nourriture, la bonne santé et la qualité de vie des habitants. Mais tout cela, écrit-il, a été payé au prix fort. Une production industrielle et des standards de consommation, à un point qui ne serait jamais toléré par les Américains. Pour le juriste internationaliste, cela conduit aussi à des questionnements vertigineux. Le droit international de l'environnement, à vocation universelle, ne serait-il qu'un mythe ? La protection de l'environnement comme préoccupation commune de l'humanité, une formule creuse ? N'y a-t-il de salut écologique que dans l'action de terrain, à petite échelle, entre personnes qui font le choix de rompre avec le reste du monde ? Le thème de la séparation frappe sous un autre angle dans le récit de Kallenbach. À Écotopia, il existe de nombreuses communautés qui s'isolent à l'intérieur même du pays. La plupart des Noirs, par exemple, se retrouvent dans des villes-États qui aspirent à leur autonomie, voire à leur indépendance. Will Weston y voit l'un des points de fragilité les plus graves du système politique écotopien. Un apartheid volontaire, une balkanisation du continent, écrit-il. Il relève aussi que dans ces territoires, les exigences environnementales sont moins strictement appliquées. Par exemple, certains habitants continuent d'utiliser des véhicules individuels, alors même que ceux-ci sont censés avoir totalement disparu du pays. Cette forme de ghettoisation renvoie à la question des inégalités et du racisme environnemental. Les historiens et les sociologues ont très bien montré que les populations racisées ou socialement marginalisées sont, dans de nombreux contextes, et particulièrement dans les pays industrialisés, exposées de manière disproportionnée aux nuisances environnementales. La pollution industrielle, les décharges toxiques, les infrastructures polluantes ou la dégradation des milieux de vie. Mais il n'est pas certain que ce soit ce que Kallenbach souhaite démontrer ici. Dans son récit, on peine à comprendre quel lien il établit entre la mise en place de réglementations environnementales robustes et le phénomène de repli communautaire. Cette ambiguïté s'explique peut-être par un malentendu courant que l'on retrouvera ici. Les projets écologiques sont souvent perçus comme des projets homogènes et monolithiques, centrés sur la protection de l'environnement, mais peu attentifs aux autres dimensions de la justice sociale. Or, cette question de l'articulation entre écologie et justice sociale est peu développée dans le roman d'Ernest Kallenbach. Après le thème de la séparation, je voudrais m'attacher au thème de la décroissance, qui est le parti pris par Kallenbach pour la réussite de sa société écologique. Celui-ci n'a pourtant rien d'évident. Difficile à concevoir dans notre réalité, la décroissance est aussi un modèle que l'on rencontre rarement dans les récits écologiques du futur. Ici, on écoute un extrait.
What is the secret of Soylent Green? New York City, in the year 2022. Nothing runs anymore. Nothing works. But the people are the same. And the people will do anything to get what they need.
This is the police.
What they need most is Soylent Green.
The supply of Soylent Green has been exhausted.
On vient d'entendre les premières secondes de la bande-annonce du film Soylent Green, sorti en 1973. Le contraste est saisissant avec le futur imaginé par Kallenbach. Dans Soylent Green, les ressources naturelles ont été détruites par le modèle industriel. Pourtant, la logique économique reste intacte. Les grandes entreprises continuent de produire et de vendre des produits artificiels. Et pire, les êtres humains continuent de penser que ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'un substitut alimentaire dont ils ne savent absolument pas d'où il vient, comment il est produit et quelles sont les répercussions écologiques et humaines de sa consommation. À l'inverse, à Ecotopia, la consommation et la production sont redevenus des actes citoyens et rationalisés. Ce qui ne s'est pas fait sans difficulté. Au moment de la sécession, la région était l'une des plus fertiles et des plus productives des États-Unis d'Amérique. La société écotopienne s'est donc retrouvée face à un questionnement inédit. Comment limiter sa production? Car en effet, il n'est plus question de produire pour exporter. Tout le système économique doit être à l'équilibre. C'est-à-dire que tout doit être recyclé dans le cadre d'un modèle d'économie circulaire parfait. Les besoins à satisfaire ne sont plus que des besoins essentiels. Et les biens produits et consommés sont caractérisés par la plus grande traçabilité possible. Comment la société écotopienne a-t-elle réussi cette révolution civilisationnelle? Non sans douleur, puisqu'Ecotopia a connu, lors de ses premières années d'existence, une crise économique et financière profonde. Mais la clé de la transformation a été la mise en place d'un programme de planification économique rigoureux qui conduit à une société de la sobriété. Cette planification implique l'adoption d'une réglementation stricte qui calcule, limite, calibre, conditionne toute la production agricole et industrielle. Pour Will Weston, toutes ces mesures ressemblent, je cite, à un labyrinthe bureaucratique où rôderait un gros rat totalitaire. Derrière cette phrase, on peut voir deux choses. D'abord, dans l'ombre du gros rat totalitaire, la menace du communisme et du planisme. Comme si une politique de planification écologique ne pouvait se concevoir sans tomber dans les travers du soviétisme et par conséquent sans conduire à l'anéantissement des libertés individuelles. Ensuite, la dénonciation avant l'heure de la lourdeur administrative de la réglementation environnementale qui nuit à la compétitivité des opérateurs économiques. La fameuse écologie punitive. On voit ici clairement que la contrainte écologique peut difficilement être pensée par le narrateur au début de son séjour, en tout cas, autrement que comme une limitation excessive des libertés individuelles et des dynamiques économiques. Il ne peut concevoir qu'elle constitue aussi la condition de leur préservation. À Ecotopia, la décroissance n'implique pas un retour à la lampe à huile ni une adhésion au modèle Amish. Le progrès technologique y a pleinement sa place. Mais l'innovation n'est pas recherchée pour elle-même. C'est un moyen concret de soutenir le bien-être et la soutenabilité de la société. Pour autant, les ressorts de la réussite technologique d'Ecotopia demeurent mystérieux. D'où viennent les financements, les matières premières, les ressources stratégiques, les connaissances et les savoirs? Quelques explications superficielles sont données, mais sans que le sujet ne soit central à l'œuvre de Kallenbach. Peut-être est-ce là que réside son utopie. Il nous offre une société désirable et cohérente, capable de concilier progrès technologique et sobriété, sans jamais s'attarder sur les mécanismes exacts qui la rendent possible, laissant le lecteur dans un sentiment d'inachevé. Finalement, quel est le contexte politique qui a permis l'avènement de cette société? Kallenbach s'attarde peu sur la question démocratique. Mais un élément de réponse est central dans l'œuvre. L'impossible a été rendu possible car les organisations politiques sont, je cite, « dirigées par ces foutues bonnes femmes ». Comment sont-elles arrivées au pouvoir? On ne le sait pas. En revanche, Kallenbach décrit des méthodes de gouvernance et de prise de décision supposées revêtir des traits féminins. L'écoute, le partage, les retours d'expérience, plutôt que l'imposition descendante de décisions autoritaires. Ce sacre des femmes à Ecotopia interroge sur le genre, s'il en est, de l'écologie. Celle-ci est-elle nécessairement féminine? L'humanité est-elle vouée à poursuivre sa course vers l'autodestruction tant que les hommes resteront au pouvoir? Il faut espérer que non, et que l'écologie est avant tout l'affaire des êtres humains. Mais Ecotopia entretient le doute sur la possibilité d'une écologie véritablement universelle. Pour finir, et pour donner au lecteur l'envie de visiter Ecotopia, malgré ses imperfections et ses zones d'ombre, je voudrais lire les mots que Will Weston adresse au directeur du Time Post, qui lui a confié cette mission d'exploration à Ecotopia. J'ai décidé de ne pas retourner à New York. Tu comprendras pourquoi en lisant mon carnet. En tout cas, je te remercie de m'avoir confié cette mission, alors que ni toi ni moi ne savions où elle me mènerait. Elle m'a ramenée chez moi.